Des amours malades, chapitre 10. C'est à nouveau le téléphone qui interrompit mes pensées, ce qui était préférable, car j'étais au bord d'une crise de je ne sais quel genre exactement, mais qui ne m'aurait rien valu. Mouret. J'arrive immédiatement. Comme chef de clinique, je n'étais pas contraint aux gardes, mais comme gastro-entérologue, je faisais partie d'un pool dans lequel les services pouvaient pêcher lorsqu'ils avaient besoin d'examens endoscopiques urgents. Quand j'étais d'astreinte, je devais être disponible de 8h à 18h. En règle générale, le service de gastro était apte à faire face à tous les examens, mais lorsqu'il était débordé, il criait au secours. En outre, il s'agissait d'un cas pédiatrique, et j'étais souvent appelée car j'avais une grande expérience dans ce domaine, ayant beaucoup travaillé avec les enfants lorsque j'étais à Paris. Le patient, âgé de 13 ans, avait ingurgité accidentellement du verre cassé. L'otorino lui avait déjà nettoyé la bouche, mais voulait un contrôle endoscopique pour plus de sûreté. Je saluai le personnel du service d'endoscopie où j'effectuais moi-même les fibroscopies le jeudi matin. J'entrai dans la salle où un petit groupe était réuni autour de la table d'examen. « Tu es très courageux, Hugo, j'ai presque fini. Ouvre grand, oui, c'est bien. »« Ah, Mouret, vous voilà !» fit l'ORL en se retournant. Il me serra la main, puis me mit au courant de la situation. Le gamin courait avec un verre à la main, puis était tombé dessus, du moins c'est ce que le père racontait. Mon collègue avait des doutes, car le visage présentait peu de coupures. Les lèvres ainsi que la langue étaient par contre assez profondément lacérées. Ou il courait en tenant le verre dans sa bouche et pendant la main, ou il a voulu imiter ceux qui avalent de tout dans le Guinness des records. Ça n'aurait rien d'étonnant. Quand vous aurez vu son œsophage et son estomac, on lui fera de toute façon manger des patates et des asperges. Cela évitera des problèmes au cas où il resterait quelque chose que vous ne pourriez pas enlever. Qu'en dites-vous ?
Tout à fait d'accord, confirmai-je. L'infirmière, qui jusqu'à présent se tenait devant Hugo, se déplaça et me dévoila l'enfant. Je n'eus pas le temps de prévenir que je me sentais mal, et mon collègue me rattrapa au vol pour m'empêcher de tomber. Il me poussa sur une chaise et se mit à rire. « Et Mouret, qu'est-ce qui vous prend ? De ne fréquenter que des petits vieux et des demi-suicidés ? Vous perdez l'habitude des spectacles peu ragoûtants ? Ça va mieux ? « Donnez-lui un verre d'eau, ordonna-t-il. » Je bus avidement, puis regardai de nouveau le gamin qui, assis sur la table, paraissait insensible à ce qui se passait autour de lui. Il était plutôt maigrichon pour son âge,
et ses vêtements n'étaient pas d'une propreté immaculée.
Il avait la bouche ouverte, et de sa langue pendante coulait un liquide où se mêlaient sang et salive qui finissait dans un réniforme en carton tenu par une infirmière. Cette dernière tamponnait avec une gaze trempée dans un liquide hémostatique les coupures de la langue. J'eus un haut le cœur et m'appuyai au dossier de ma chaise en fermant les yeux.
« Tu ferais mieux de les rouvrir, tes yeux, Alexandre. Sinon, tu vas voir des choses que tu ne tiens pas à regarder.
Tu n'as pas de chance aujourd'hui.
Mais que veux-tu y faire ?»«
Vous êtes sûr que vous arriverez à faire la gastro ?» s'inquiéta l'ORL.
« Oui, oui, c'est passé. Je n'ai pas déjeuné et c'est sans doute cela. Allons-y. Vous lui avez déjà mis un cathéter veineux ?»
Il refuse de se déshabiller.
« Pourquoi ? Nous n'en savons rien. » Il ne peut pas parler, mais se démène comme un beau diable si on touche ailleurs qu'au visage.
Si quelqu'un m'explique ce que j'ai fait pour mériter une pareille journée, soupirai-je. Je m'approchai du coup. Je me présentai et lui racontai ce que j'allais lui faire. Il avait des acquiescements sanguinolents. Quand j'arrivai à la bord veineux, il secoua la tête vivement, nous éclaboussant de sa salive rougie. Il me fit penser à un petit chien qui s'ébroue après son bain et inonde joyeusement son maître.
« Ton chien, chien !» Je chassai la voix de Michael et me concentrai à nouveau sur le problème du cou. Je lui proposai de placer l'aiguille sur le dos de la main pour qu'il n'ait pas besoin d'ôter son pull au vert. Il eut un regard tellement reconnaissant que j'en fus émue. L'infirmière se prépara donc à le piquer, mais Hugo recommença à s'agiter. Il me désignait du menton tout en tenant ses mains jointes sur son estomac. Je pris donc la place de l'IDE et enfilai le petit tube de plastique, le fixai, fit un lavage avec du sérum physiologique et vissait le minuscule bouchon pour fermer la voie d'abord qui aurait servi si le gamin avait eu besoin d'un anesthésique. Alors que je terminais toutes ces opérations, je notai sur le poignet une vieille cicatrice à l'aspect arrondi. Je tendis la main vers la manche d'Hugo, mais ce dernier retira le bras d'un geste vif en me regardant d'un air terrorisé. « Excuse-moi, » fis-je penaud. J'avais un vertige insoutenable
et mes mains s'étaient mises à trembler. J'étais dans un état qui frisait l'hystérie.
Je pressais le personnel, exécutais la fibro rapidement, car grâce au ciel, Hugo était un modèle d'obéissance et de collaboration.
Je dus extraire deux débris qui s'étaient plantés dans l'œsophage et un autre dans la muqueuse de l'estomac. Je fis un lavage, puis ôtai le fibroscope. Je rassurai Hugo qui hocha la tête doucement. Je me dirigeai vers le téléphone, puis appelai la pédiatrie et prétendis qu'un de leurs médecins nous rejoignit. « Les parents ne veulent pas l'hospitaliser, » me renseigna l'otorino. « Mais je m'en fous complètement de ce que disent les parents, » répliquai-je rageusement. « Ah, le roi, je suis content que ce soit toi, » dis-je en accueillant le pédiatre. Il s'agissait d'un médecin près de la retraite avec lequel je travaillais volontiers. Les enfants l'adoraient. Il ressemblait au Père Noël. Très grand, d'un embonpoint que son cœur ne devait pas apprécier, une grande barbe poivre et sel, surmontée d'un nez énorme et de deux yeux bleus pâles, enfuis dans un filet serré de rides. Sa voix était d'une douceur que jamais sa stature n'aurait laissé présager. « J'aimerais rester seule avec l'enfant et avec le roi, si ça ne vous ennuie pas, » demandai-je au personnel et à l'otorino. Ce dernier, qui avait très bien compris où je voulais arriver, accepta de bonne grâce de quitter la pièce. J'exposai mes doutes au pédiatre, qui m'écouta sans m'interrompre, puis il se dirigea vers Hugo, qui était encore allongé sur la table d'examen. Il l'aida à s'asseoir, expliqua qui il était. « Je sais que tu ne peux pas parler, Hugo, mais je vais essayer de le faire pour toi. Tu n'auras qu'à m'interrompre si je dis des bêtises, tu veux ?» L'enfant fit signe qu'il était d'accord. Le docteur Mouret m'a dit qu'il avait vu sur tes mains de drôles de signes, et nous avons peur que tu en aies ailleurs. Cela nous ferait beaucoup de peine pour toi. Et nous voudrions t'aider. Dans le service où je travaille, il m'est arrivé de rencontrer des enfants avec les mêmes signes que les tiens. Certains en avaient d'un autre genre. Peut-être en as-tu, toi aussi. Les personnes qui leur ont laissé ces traces sur leur corps leur disaient qu'ils le faisaient pour leur bien, pour qu'ils deviennent de bons garçons ou de bonnes filles. Ces personnes disaient à ces enfants qu'elles les aimaient, et que ces traces étaient simplement leur façon à eux de leur prouver leur amour. « Tu comprends ce que je dis, Hugo ?» L'enfant acquiesça. Il semblait attendre la suite du discours. Le pédiatre reprit. « Aimer de cette manière n'est pas une bonne façon d'aimer, Hugo. Quelquefois, les adultes ont des difficultés et pensent bien faire, mais il arrive qu'ils se trompent. Ce n'est pas leur faute, et ils ont très certainement besoin d'aide. » « Mais pour l'instant, c'est toi qui as besoin d'aide, Hugo. C'est toi qui as besoin de cette aide. »« Toi non plus, tu n'as aucune faute. Tu m'entends, Hugo? Aucune faute. Aucun enfant ne se trompe au point de mériter qu'on laisse sur son corps de telles traces. Aucun, pour aucune raison. » La tirade du pédiatre m'avait bouleversée. Il avait su, sans accuser personne, amener Hugo à chercher de l'aide. Les enfants battus ont souvent tendance à protéger le géniteur qui les frappe. Par peur, ou parce qu'ils sont convaincus de mériter ce qui leur arrive. Parlant ainsi, le pédiatre voulait amener l'enfant à demander de l'aide, tout en sachant qu'il ne condamnait personne et qu'au contraire, il venait comme cela en aide à son père ou à sa mère. Cela était un premier pas, les autres seraient plus douloureux, mais il fallait un point de départ. Un point de départ. Tu crois que tu pourrais nous faire voir ces traces, Hugo ? L'enfant commença à se déshabiller avec une lenteur douloureuse. Lorsqu'il se retrouva torse nu, je mis une main devant ma bouche pour ne pas hurler. « Pourquoi devrais-tu hurler? Ce serait nouveau !» Son torse, son dos, ses bras étaient un dictionnaire de toutes les atrocités possibles. Brûlures de cigarettes, coups de fouet, de ceinture, coups de poing où l'on devinait l'empreinte d'une bague ou d'une chevalière, morsures. Certaines plaies étaient cicatrisées, d'autres suppuraient. Un flot de bile me monta aux lèvres et j'allai cracher dans le lavabo, les deux mains appuyées sur le mur. Je ne pouvais pas rester ici, je devais m'en aller, j'allais devenir fou. Je sentis le roi qui rassurait Hugo, puis je perçus la grande main du pédiatre sur mon épaule. « Tu ferais mieux de retourner dans ton service, » me conseilla-t-il gentiment. « Ici, tu as fait tout ce que tu devais et même plus. Tu as eu du flair à suspecter une violence, seulement en voyant une vieille cicatrice. » Et en trouvant étrange le comportement du petit. Je te remercie. J'ai appelé deux infirmières. Nous allons nous occuper de lui. Et de ses parents, ajouta le roi tristement. C'est moi qui te remercie. Je suis désolée, tu me prendras pour. Ce genre de spectacle ne peut pas laisser indifférent. Je sais que j'aurai une nuit peuplée de cauchemars. Chacun paie son prix.